carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. L'architecte Louis Levaux, premier architecte du roi en 1654, est né à Paris en 1612 et mort dans la même ville en 1670. Ses hôtels particuliers parisiens, ses châteaux en Île-de-France, ses travaux au Louvre, aux Tuileries, à Versailles où il a constitué l'enveloppe, ses dessins pour le Collège Mazarin où nous nous trouvons aujourd'hui puisque c'est là que l'Institut de France est installé depuis le début du XIXe siècle. Donc tous ces ouvrages que je viens d'énumérer et d'autres encore ont marqué le fameux style de Louis XIV. Contemporain de François Mansart, de Jules Hardouin Mansart et de Jacques Le Mercier, Levaux a été en effet un des créateurs du classicisme français que Jean-Pierre Bablon de l'Institut de France juge conforme à la grammaire antique mais adaptée au ciel, aux usages et aux goûts français. Jean-Pierre Bablon de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et dont les travaux dominent et influencent une grande partie de l'histoire de l'architecture française voire de l'architecture occidentale du XVIIe, nous fait l'honneur d'évoquer ici la carrière, l'originalité et l'influence de Louis Levaux. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Jusqu'en 1623 en France, il s'agissait du premier classicisme à la Ducerceau, à la Androuet Ducerceau. Mais une nouvelle génération d'architectes va petit à petit modeler le classicisme. Et quand je dis classicisme, c'est avec un C majuscule. Louis Levaux en fait partie. Il est entré dans la carrière grâce à sa famille. Et très jeune, il commence son ascension grâce aux commandes de la bourgeoisie de robe et la bourgeoisie de la finance dans l'île Saint-Louis, qui est nouvellement lotie et urbanisée. Monsieur Louis Levaux habitait avec ses parents sur le quai rive droite, en face de l'île Saint-Louis. Mais quelle est l'origine de l'urbanisation de l'île Saint-Louis qui, elle, va permettre à Levaux de se faire un nom?
Bien, il a été décidé en amont de l'île de la Cité, qui était le cœur même de la ville de Paris depuis ses origines. Il a été décidé que ces deux îles, n'est-ce pas, ces deux îlots un peu mal fichus, vous permettez l'expression, qui étaient derrière la pointe orientale de l'île de la Cité, pouvait faire véritablement l'objet d'un espace urbanisé. Pourquoi ? C'est parce que ces deux îles, elles étaient réunissables, mais aussi parce qu'elles se trouvaient, elles aussi, au cœur de Paris. Donc, si on les réunissait par des ponts à la rive droite et à la rive gauche, on avait véritablement, tout d'un coup, un nouveau quartier. Et il était tout à fait frappant et normal, bien sûr, qu'une nouvelle architecture soit née pour garnir ces terrains, n'est-ce pas, qui jusque-là n'avaient pas fait partie du territoire de la ville de Paris.
Ils s'appelaient en fait l'îlot Notre-Dame et l'îlot aux Vaches.
Aux Vaches, c'est étaient ça, l'îlot aux Vaches, voilà.
Inhabités, ils servaient un peu d'entrepôt
oui,
pour le bois.
Oui, de pâturage et d'entrepôt, oui, c'est
oui,
ça.
Oui, et j'ai lu aussi de terrain de duel.
Oui, aussi. Mais il faut aussi se rappeler que la Seine est tout de même un espace de navigation important, donc il y avait une navigation avec des bateaux qui passaient, qui surtout s'amarraient sur la rive droite, mais qui longeaient ces îlots.
Alors, vous parlez de la Seine, donc en fait, tout commence par un pont. Il faut construire un pont.
Oui, il faut construire un pont, bien sûr. Alors, on construit ce pont qui va être un pont sans maison, comme Henri avait déjà donné l'exemple
du
extraordinaire
pont
avec le pont Neuf, des ponts sans maison, alors que sans ça, en dehors du pont Neuf, les ponts de l'île de la Cité était couvert de maisons sur les deux côtés, c'est-à-dire que quand on se promenait dans la ville, on ne voyait pas la Seine, c'est extraordinaire.
Et ça sera le pont-Marie du nom de celui
de
Christophe-Marie,
un entrepreneur, un des grands entrepreneurs, voilà.
Oui, alors le pont se fait, mais pendant ce temps-là, on cherche à lotir,
oui.
Donc il faut remblayer.
Absolument, c'est un gros
construire des quais.
Un gros remblai, bien sûr, puisque les îles étaient assez basses, donc il va falloir construire, et ça va, bon, j'avoue que c'est un des grand problème qui se sont posés au moment de la restauration de l'hôtel Lambert ces derniers temps, c'est d'aller véritablement jusqu'au fondement et les fondations qui sont sérieuses, n'est-ce pas, et non pas, je dirais, sur le sable, quoi. Donc il faut monter le niveau et on s'en rend compte très bien d'ailleurs quand on se promène dans Paris
et
qu'on regarde l'île. Oui, sur
c'est
des pilotis.
Pilotis, remblais, glaise.
Alors vous allez me permettre une petite parenthèse, s'il vous plaît. C'est que, bon, nous célébrons les anniversaires, n'est-ce pas? Donc là, nous célébrons l'anniversaire de Levaux. Bon, je voudrais rappeler qu'il y a des hommes qui sont un petit peu couplés par leurs anniversaires, parce que le nôtre, c'est 1613, c'est l'année prochaine, n'est-ce pas, que nous pensons déjà aux célébrations de l'immense jardinier que le nôtre. Et puis, si nous franchissons un siècle de plus, nous serons aussi dans les célébrations d'anniversaire, très curieuses, avec deux hommes qui se sont beaucoup aimés avant de se détester. C'est Jean-Jacques Rousseau, né en 1712, et Diderot, né en 1713. Donc, ces jumelages sont intéressants parce que il nous amène à voir les hommes non plus comme l'histoire nous a appris à les voir statufiés ou auteurs dans les manuels scolaires, comme de véritables entités humaines, bon, qui avaient leurs talents, qui avaient aussi leurs oppositions et leurs détestations, ou qui pouvaient travailler ensemble. Alors, je ne connais pas de détestation entre le vôtre et le nôtre, mais bien évidemment, le nôtre s'inscrit aussi, bien sûr, dans la suite de la conception de l'environnement, de l'espace, de l'horizon de le vôtre.
Oui, et on parlera tout à l'heure aussi de Lebrun.
Et de Lebrun, voilà.
Donc notre Levaux, quelle est sa famille en fait? Tout à l'heure on avait commencé et on a pensé à parler de l'urbanisation de l'île Saint-Louis.
Oui.
Quelle est sa famille?
Bon, ben, il a donc comme père un Louis Ier Levaux, qui était grand voyer et inspecteur général des bâtiments du roi. Et il aura comme frère un François Levaux, né en 1613, donc un an après lui, qui aura aussi une carrière d'architecte tout à fait intéressante.
Oui, parce que c'est lui qui a construit l'église de l'île Saint-Louis.
L'église de l'île Saint-Louis, voilà. Alors, je crois qu'il faut voir un petit peu comment se situe la clientèle de Louis Levaux. Cette clientèle a été d'abord, comme vous venez de le dire très bien, donc, bourgeoisie parisienne aidée ou très puissante et très, très riche, qui va trouver, bien sûr, à l'île Saint-Louis un moyen de se faire élever des bâtiments nouveaux. Mais il y a aussi ceux qui sont sur la rive droite. Et ces hommes vont construire leur hôtel, mais aussi leur château aux environs de Paris. Et alors, il y a un point tout à fait important qui est de dire que, me semble-t-il, Levaux a construit en briques et pierres, qui était la grande spécialité de François Mansart, son contemporain, mais un peu plus âgé que lui. Il a construit l'hôtel Beautru de Serran, à l'angle de la rue Vivienne et de la rue des Petits Champs. Cet hôtel, il l'a construit à partir de 1634. Et cet hôtel sera modifié très profondément par Pierre Bréault pour Colbert, lorsque Colbert se portera acquéreur de cet hôtel. Mais lorsqu'on se promène dans les bureaux de l'Institut national d'histoire de l'art, dans les cours, on aperçoit encore des vestiges de l'hôtel Colbert, mais ce sont des vestiges de pierre, n'est-ce pas, de la deuxième version, et non pas de la première de Levaux. Mais enfin, il commence avec ce style coloré, avant d'abandonner totalement la brique, pour après ça apprécier véritablement la pierre pour elle-même.
Oui, donc on passe du style Louis XIII au style Louis XIV.
Absolument.
Donc, quelles sont ces originalités? Parce qu'on va voir que dans cette île Saint-Louis, ils ont cherché, il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas d'urbanisme administratif comme maintenant, mais ils ont cherché, les architectes entre eux et les occupants, à avoir une homogénéité. Et c'est ça qui est étonnant.
Oui, tout à fait. Cette homogénéité, c'est d'avoir... il faut se rendre compte que l'île, c'est sans vouloir dire des quais. Donc, il faut qu'on prenne l'agrément d'habiter l'île, c'est d'avoir des appartements qui donnent sur l'île, n'est-ce pas? Ça veut dire construire sur le quai. Ça veut dire une modification du schéma antérieur de l'hôtel classique, qui est d'avoir une cour avec un corps de logis au fond et deux ailes qui, eux, viennent jusqu'à la rue. Là, au contraire, pour ce qui est des hôtels de l'île Saint-Louis, ces hôtels vont établir, d'une façon générale, leurs bâtiments en bordure du quai, n'est-ce pas? Et notamment pour ce qui est bien resté sous cette configuration, c'est l'hôtel Lauzun, qui est construit par Louis Levaux en 1656. Alors, il y en a bien d'autres comme ça, que je ne vous citerai pas, l'hôtel de Caumont, Esselin, qui a été démoli, mais qui était très intéressant. Et alors, on se trouve aussi, tout d'un coup, dans une position... extraordinairement difficile, c'est la pointe de l'île. Comment est-ce qu'on peut traiter la pointe de l'île? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir tous les bâtiments sur le quai? À ce moment-là, c'est le quai nord. Ou bien les bâtiments sur l'extrémité de l'île, de la rue centrale, qui est la rue Saint-Louis-en-Lille, qui vient aboutir sur le quai. Comment est-ce que Louis Levaux va arriver à traiter, je parle naturellement, de l'hôtel Lambert? C'est l'hôtel Lambert qu'il a construit en 1640-1642.
Les contraintes étaient énormes, parce qu'il y avait un arrondi.
Oui, il y avait un arrondi, et puis la mitoyenneté, avec d'ailleurs une maison que la famille Levaux s'était construite pour elle, sur le quai, c'est-à-dire sur la Bellevue, Comment est-ce qu'on arrivait à maîtriser cet ensemble pour avoir tout de même un hôtel entre cour et jardin avec un portail sur une voie publique? Et alors c'est là où se manifeste cet art artificieux et magnifique de Louis Levaux, qui est de saisir la situation pour en faire l'élément même d'une beauté, mais d'une beauté inédite et surprenante. Je l'ai souvent dit, pour le Collège Mazarin, où nous avons des terrains aussi extraordinairement difficiles, on ne peut pas tout traiter dans l'axe central de l'espace tel qu'il apparaît pour le visiteur, mais il faut tout traiter en biais, mais en lui faisant croire qu'on est toujours dans l'axe principal. C'est une architecture d'illusion qui appartient véritablement à Levaux. Là, pour l'hôtel Lambert, nous avons donc une cour qui ouvre sur la rue Saint-Louis-en-Lille. Bon, donc quand vous entrez dans la cour de la rue Saint-Louis-en-Lille, vous dites, bon ben voilà, j'ai un hôtel avec un corps de logis au fond et puis des ailes sur le côté. En réalité, ce n'est pas du tout ça. L'aile gauche est une minuscule petite aile étroite. Au fond, vous avez l'aile centrale.
C'est l'escalier.
En réalité, c'est l'escalier. Et puis, au contraire, le tout se développe sur la droite. Pourquoi ? Parce qu'à droite, il y a surélevé d'une façon très forte un jardin sur lequel se développe la réalité de l'hôtel, c'est-à-dire cette fameuse galerie d'Hercule, qui forme toute une aile sur le jardin lui-même et auquel on accède justement par ce fond qui n'est pas du tout le corps de logis principal, mais qui est l'espace de l'escalier.
Et il y avait une vue superbe sur la Seine,
admirable,
vue vers l'Orient.
Vers l'Orient, au moment où les rives n'étaient pas très construites. Il y avait encore un îlot qui subsistait là où est l'Arsenal aujourd'hui. Donc, la vue s'étendait avec un panorama extraordinaire depuis les appartements qui donnaient sur ce jardin surélevé.
Oui, donc la vue était superbe. Et pour améliorer encore la splendeur du lieu, il a fait appel à ce qui allait devenir ses amis, c'est-à-dire des peintres fabuleux, le Brun et le Sueur.
Et le Sueur, voilà. C'est aujourd'hui l'un des joyaux existant ou ayant existé, mais enfin, il y a encore beaucoup d'œuvres en place, les Le Sueur constituant des ensembles, notamment autour de l'évocation des muses, et qui était véritablement une nouveauté extraordinaire pour les bourgeois et les financiers de Paris, d'arriver à avoir un ensemble totalement peint par les plus grands peintres de la génération.
Et alors, non seulement il y a de très beaux hôtels qui sont construits là, mais tous ces bourgeois aussi investissent et ils font construire des immeubles de rapport. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, dans les rues à l'intérieur de l'île Saint-Louis, aussi, encore une fois, un ensemble harmonieux.
Et oui. Disons que la promenade de l'île Saint-Louis est absolument unique dans le paysage français. À droite, à gauche, sur la rue, la traversée, et puis sur les quais, vous avez un ensemble d'une homogénéité étonnante et qui, Dieu merci, était préservé, sauf quelques ennuis.
Oui, quelques désastres.
Voilà. Et la vue de l'île Saint-Louis sur l'île de la Cité, non pas sur l'arrière de la Cité, était splendide aussi.
Ces prouesses de l'île Saint-Louis, Levaux va continuer sa progression. Il se fait connaître de Mazarin et puis il va travailler à Vincennes parce que Mazarin, nous sommes dans les années Mazarin, va lui passer commande pour un pavillon du roi et un pavillon de la reine-mère.
Voilà, tout à fait. Mazarin a décidé de laisser de la place au jeune Louis XIV, n'est-ce pas, dans Paris. Donc il pense qu'il vaut mieux se retirer, avoir lui-même un grand train de vie, mais hors de Paris. Donc, il va réinvestir d'une façon tout à fait extraordinaire, avec une imagination étonnante, ce château de Vincennes, qui avait été déjà un lieu de retraite pour les rois de France, notamment Charles V, qui était un lieu fortifié. Bon, c'était aussi un moment où les rois ont toujours un peu craint les Parisiens.
D'ailleurs, Mazarin, c'est peut-être à cause de la Fronde.
Et alors, il valait mieux s'écarter des Parisiens. Et puis, encore une fois, laisser le roi se développer son prestige lui-même. Enfin, il y avait tout de même un pavillon, grand pavillon qui était fait pour le roi, le Louis XIV n'est pas venu beaucoup, et puis une autre aile qui était l'aile pour la reine Anne d'Autriche, où Mazarin s'est installé, et c'est d'ailleurs là qu'il est mort. Alors l'intéressant, c'est de voir que, avec une habileté étonnante, Louis Le Vau a pu, dans ce périmètre toujours aussi prodigieux, je vous invite à aller revisiter le château de Vincennes, dans ce périmètre prodigieux où il y avait le grand donjon, d'une part, et puis cette grande chapelle de style gothique flamboyant.
C'est une sainte chapelle.
Qui est la sainte chapelle, n'est-ce pas? Donc à côté, comment est-ce qu'on pouvait insérer dans un ensemble de pierres aussi médiévales des bâtiments classiques? C'était pas de la fantaisie, c'était vraiment du classique pur. Eh bien, le tour est joué par l'utilisation de la pierre. Il faut que ce soit une pierre blanche d'une grande homogénéité. Et ces deux bâtiments, qui existent toujours, ces deux grandes ailes, garnies de pilastres colossaux, ne se réunissent pas, sont l'un en face de l'autre. Bon, une fois qu'on a dépassé l'axe du donjon.
Il y a un portail.
Et alors, on va, bien sûr, Vincennes vaut pour sa forêt. Donc, la cour, l'immense cour formée par ces deux grandes ailes, s'ouvre côté forêt par une porte en arc de triomphe. Et je me suis intéressé aux angelots qui sont au-dessus de la porte dans cet arc de triomphe côté de la cour et non pas de l'extérieur. Et j'y ai retrouvé, je les ai photographiés, des angelots qui sont des mêmes sculpteurs que ceux qui ont été sculptés au Collège Mazarin ici à l'Institut. Donc, tout un atelier de sculpteurs qui suivait, oui, bien sûr, l'activité de l'architecte.
Oui, c'était une équipe d'artistes d'élite.
Qu'on tenait très sérieux.
Et puis alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de la salpêtrière, en disant qu'il y avait des bâtiments très sobres et très beaux qu'il a construits et qui sont plutôt méconnus, ceux-là.
Oui, plutôt méconnus. Alors, on voit la salpêtrière avec la superbe église polygonale. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est les bâtiments qui sont encore occupés par un hôpital ont été créés sur la volonté de Louis XIV avec une architecture très simple, mais en même temps d'une autorité tout à fait magnifique. Ils sont bien restés. C'est vraiment une... Et alors, ça faisait partie des équipements que le roi voulait construire pour les malades ou les personnes en situation difficile, comme Louis XIV le fera un peu plus tard, aux Invalides. Donc la salpêtrière est aussi un de ces gestes d'équipement social que le roi voudra pour les Parisiens.
Donc il a été assailli par des commandes de la bourgeoisie parisienne, Louis Le Vau, et ça lui permet d'entrer dans le grand monde avec Mazarin, on vient de le dire, et Fouquet. Parlons de Vau le Vicomte.
Oui.
C'est aussi une splendeur qui nous reste.
Oui, c'est une splendeur qui nous reste. Bon, l'histoire... réunis par les artistes des hommes qui se détestent, si on peut dire. C'est-à-dire que
Vau... Fouquet et Louis XIV.
Oui, le Vau de Fouquet s'élève comme ça. Et donc, Fouquet s'est adressé à Le Vau. Il est intéressant de penser que lors de l'illustrissime visite de Louis XIV chez le surintendant des finances, à Vau, bon, Louis XIV s'est dit où est-ce qu'il a trouvé tout l'argent pour édifier ce palais qui est plus important que mes palais à moi. Bon, premièrement. Mais deuxièmement, il s'est dit, mais qui lui a construit ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas arriver à saisir l'architecte qui a travaillé pour lui en le prenant à mon service, et sachant bien sûr que c'était aussi Le Vau qui avait travaillé pour Mazarin? C'est donc qu'il va entraîner Le Vau vers Versailles et vers le Louvre. Et je pense toujours qu'il l'a entraîné de la même manière que... Vous savez qu'on a arraché des grands arbres de Vau le Vicomte pour les planter à Versailles. Donc, il y a une espèce d'emprunt violent qui se fait pour les orangers de Vau le Vicomte sont partis pour Versailles.
Oui, et il y a eu des thermes aussi, je crois.
Des thermes, c'est ça, tout à fait. Donc, ce château de Vau le Vicomte qui est extraordinaire parce que, vous voyez, c'est toujours cette créativité incroyable sur les formes que Le Vau connaît. On va voir... ce grand château en longueur, bon, qui est centré par cet énorme salon ovale.
Avec une coupole
avec
jusqu'au comble.
Avec une coupole et un faux comble. Donc, c'est aussi la forme qui frappe le visiteur, mais aussi l'illusionnisme qui fait qu'on est tout de même dans un ovale, alors qu'on croyait que c'était rond un peu. Et c'est la même chose qu'on va retrouver ici à la coupole de l'Institut. C'est aussi un ovale qui, en réalité, devient une coupole ronde. Vous savez bien que lorsque vous êtes sous la coupole, vous vous apercevez très bien de la différence d'épaisseur des murs lorsqu'on vous êtes sur l'axe nord-sud ou l'axe est-ouest, puisque les fenêtres sont doubles lorsque l'ovale va plus loin que la circonférence.
C'est très astucieux.
Voilà. Et puis, alors, bien sûr, l'utilisation de l'ordre colossal. Alors, en même temps, la mise en scène de l'architecture avec, bien sûr, une terrasse très surélevée. Et puis, l'appel au jardinier. Bon, c'est là où nous retrouvons le nôtre, avec le désir forcené d'avoir une grande perspective, même si, vous le vicomte, le terrain ne s'y prête pas et qu'il faut aboutir tout d'un coup sur une espèce de fausse perspective qui est le fond de la colline.
Oui, donc non seulement ils ont enlevé le village, enlevé une petite église qui correspondait au village, mais déboisé, arraché des vignes, enlevé de gros cailloux, détourné une rivière.
Détourné une rivière. Et puis, bien sûr, le château s'élève comme ça tout seul dans son isolement glorieux. Mais en même temps, bien sûr, il faut des communs. Donc les services sont détachés du château lui-même pour être disposés latéralement du côté de l'entrée.
Et tout ça, ça faisait partie des originalités de Levaux. Il y avait aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est son invention du double corps pour l'aménagement intérieur. Parce que non seulement il est inventif pour les façades, mais aussi pour l'aménagement intérieur. Et ça fait partie de la marque Levaux, ça.
Oui, tout à fait.
Alors, quelle est la différence ? Double corps ou les corps précédents uniques ?
Oui, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a bâti, et bon, et c'est aussi le cas de François Mansin, qui est un très grand architecte, c'est qu'on bâtit un bâtiment qui prend vue d'un côté et de l'autre.
Une enfilade totale et
unique. Une enfilade totale et unique.
Sur toute la largeur.
Et qui n'est pas large, qui n'est pas très large.
Enfin, la largeur du bâtiment.
La largeur du bâtiment. Alors que là, on va concevoir, au contraire, une épaisseur éclairée d'un côté avec une épaisseur de pièce éclairée de l'autre. Et donc, les traversées qui se font et qui sont l'occasion d'avoir des effets perspectifs parce que les portes sont percées naturellement dans l'axe visuel des fenêtres qui vont vers la cour ou vers le jardin.
Oui, ça faisait des occupations différentes.
Absolument.
Un aménagement
et
différent.
Et en même temps, alors c'est aussi une nouvelle conception des appartements, parce que ça veut dire qu'on entre dans une antichambre, et puis cette antichambre va mener à une chambre, et puis il y aura une, bon, pour notre cas, des salles du conseil ou des salles d'assemblée qui se divisent comme ça et qui ont des vues différentes pour aboutir au grand salon central. Et ceci permet aussi de diversifier les espaces privés, des espaces de réception. Parce que, bon, il y a des petits cabinets qui sont aménagés comme ça, et ça n'est plus non plus un seul escalier qui mène dans l'axe au grand étage, mais un escalier principal qui est généralement mis sur le côté, et puis des petits escaliers qui permettent, depuis les appartements privés, de monter au premier.
Est-ce que c'est parce que la société bourgeoise faisait une modification des modes de vie ?
Oui. Et alors, c'est intéressant de voir, bon, on a beaucoup recherché ceci ces derniers temps, quantité d'excellents historiens se sont penchés sur l'évolution du tracé des appartements, de la place des escaliers. Bon, ça veut dire que des commodités bourgeoises, comme vous le disiez, ont inspiré un nouveau style princier ou royal qui a vu que chez des gens de moindre envergure, il y avait une commodité d'existence qui était bien commode.
Alors, nous avons parlé du grand salon de Vaux, mais j'aurais voulu, de Vaux-le-Vicomte, mais j'aurais voulu que l'on parle aussi de sa particularité, c'est la pièce à l'italienne, mais c'est un petit peu la même chose. Mais parlons-en un peu plus, sachant que lui n'a pas été à Rome, il n'a pas fait le voyage à Rome.
Oui.
Mais il récupère,
oui. Il récupère des idées. Oui. Tout à fait. Ça veut dire que le salon s'élève sur la totalité du bâtiment avec d'immenses baies.
Avec des voussures.
Et puis, voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas deux salons superposés. Il y a un salon à l'italienne avec une vue magnifique et une vue qui prêtait aussi à des visions de haut. Et je pense que c'est intéressant d'aller voir à l'hôtel Lausanne ces dispositions qui étaient déjà comme ça. On pouvait voir de haut ce qui se passait en bas. En se penchant.
Une vision panoramique.
Une vision panoramique.
En ce qui concerne le Louvre et les Tuileries, avant qu'on ne parle de l'enveloppe de Versailles, oui. Les Tuileries, entre autres, il a changé beaucoup de façades et aussi toujours les aménagements intérieurs. Enfin, pour oui. Les Tuileries, on n'a plus de traces.
Oui, oui.
Mais c'est aussi ce qu'il a fait.
Tout à fait. Et alors, je dirais qu'il y a aussi une adaptation dans son style de conception qui est intéressante. Et l'évolution de ce qu'il a fait au Louvre est tout à fait remarquable. Donc, il avait succédé comme premier architecte du roi à Le Mercier. Le Mercier qui était le grand architecte monarchique qui avait été utilisé pour le Louvre. À un moment, vous savez, on se décide que le Louvre ne sera plus ce petit château carré avec le gros donjon. Mais il s'agit d'en faire la résidence royale, si tant est que le roi veuille vraiment habiter longtemps Paris, résidence royale qui ne peut pas être réduite à cette petite cour. Il s'agit donc de quadrupler le Louvre de François Ier. Ça veut dire que l'aile de Pierre Lescot, oui, le logis Pierre Lescot, c'est comme oui. Ça qu'il faut dire, deviendra une aile. Et cette aile va s'amorcer avec les ailes identiques ou de même style ou de même hauteur qui vont s'établir sur tous les autres côtés de la cour multipliée par 4, avec un pavillon central qui fait l'axe sur duquel tout se développe. Et c'est le Mercier qui élève, vous savez, ce pavillon de l'horloge dans lequel se trouve encore aujourd'hui la chapelle du château du Louvre. Et puis, sur le côté sud, bon, le Mercier n'existait plus. Il y avait une aile, une petite aile qui avait été bâtie sous Henri III et continuée sous Henri IV. Alors, Levaux va être chargé de lui d'aménager la grande aile sud. Cette grande aile sud, elle va se faire d'abord avec le style Le Mercier, c'est-à-dire après l'aile du XVIe siècle, fin du XVIe siècle, il va remettre un pavillon et puis une autre aile de l'autre côté. Et puis après ça, vous savez, c'est lorsqu'il construira le Collège Mazarin, le dôme du Collège Mazarin fera face au dôme, au pavillon à dôme de l'aile sud du Louvre, reconstitué, enfin agrandi par Levaux. Et puis arrivera la grande confrontation, le Bernin viendra et trouvera c'est pas bien du tout. Et puis, est-ce qu'on demande au Bernin, est-ce que vous voulez faire un projet? Non, non, oui, il fait un projet dont vous avez peut-être des dessins, bon, qui est un chambardement absolu de tout ce qu'on avait prévu. Alors, on fait un comité avec Pérou, mais aussi avec Levaux. Et puis, on se dit, bon, ben voilà, on va changer de style. C'est fini, les ordres superposés. On va avoir le grand ordre colossal sur un soubassement. Mais c'est également fini, les pavillons à dôme, n'est-ce pas? Ça, c'est terminé. Donc, il faut une architecture où on ne voit pas les toits et qui se termine par une balustrade.
Attique et balustrade.
Attique et balustrade. Bon, donc, on va construire l'aile qu'on appelle la colonnade de Perrault, avec cette colonnade, avec ce qui devait être l'entrée du nouveau Louvre. Et puis, finalement, on n'a pas fait cette grande avenue d'entrée qui était prévue pour qu'on arrive devant. Qu'on soit tout à fait stupéfait.
Depuis Saint-Germain-l'Auxerrois.
Depuis Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est ça, à la colonnade. Et puis, Levaux, il est chargé de revoir sa copie pour l'aile du Midi. Donc, il va doubler d'épaisseur l'aile du Midi et il va la faire comme la colonnade, mais en simplifié, c'est-à-dire non plus avec des colonnes, mais avec des pilastres, mais également sur toute cette hauteur. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Bon, il appliquera ça aussi un peu à ses travaux aux Tuileries. Donc, on voit un homme qui est capable de s'adapter à des situations nouvelles. Et ça, je pense qu'on appréciait beaucoup. Et si nous en venons à Versailles, c'est exactement ça. Comment s'adapter? Alors, vous avez en face de vous le monarque. Louis XIV, il aime beaucoup le petit château briques et pierres de son père.
Oui, parce qu'il voulait être fidèle à son père.
Et voilà, bon, et puis j'y allais comme ça pour chasser. Et puis c'est comme ça que je trouvais tout mon environnement. Et puis on se logeait, on allait à la chasse et puis on retournait à Paris. Voilà, en fait, c'est ça.
Maison de vacances.
En grande vacances. Et puis, bon, la pression de la cour, le désir d'avoir vraiment un logement pour les courtisans, peut-être aussi des espaces de temps plus longs qui n'étaient prévus auparavant. N'abandonnant un peu les idées de ce qu'étaient Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye jusque-là, les grands châteaux. Pour la monarchie, Louis XIV se dit, bon ben voilà, on va faire le changement à Versailles. Et alors, on demande à Levaux, alors il faut tout reconstruire ou pas? Bon. Et Levaux a cette idée absolument stupéfiante de dire, mais si, puisque vous aimez le petit château briques et pierres, on va le garder et on va l'entourer d'une enveloppe en pierre que nous traiterons aussi avec un grand ordre, comme ce que vous aimez, à Paris. Donc, on va recouvrir. La cour restera la cour du château Louis XIII. Vous aurez donc l'enveloppe de chaque côté. Et cette enveloppe, ô merveille, elle s'ouvrira côté jardin, dans ce que vous êtes en train de faire créer par le nôtre.
Comme une villa
par
italienne.
Par une terrasse, une villa à l'italienne avec une terrasse. Une terrasse supportée par un soubassement en arcature à refend. Donc un pavillon à un côté, un pavillon de l'autre, qui le roi pouvant aller chez la reine en logeant s'établissant sur la terrasse quand il ne pleuvait pas. Donc c'était une idée absolument extraordinaire qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on va encore à Versailles aujourd'hui, puisque c'est extraordinairement sensible. L'enveloppe, elle est toujours là. Elle est aussi sensible à l'intérieur des pièces. Et puis, vous savez comment ça se passera après ça. Bien après la mort de Levaux, le roi voudra véritablement accueillir toute la cour, premièrement. Deuxièmement, il voudra fixer la capitale du royaume et de l'État à Versailles. Bon, ça veut dire qu'il faut de nouveaux espaces. Et la Galerie des Glaces viendra occuper la terrasse du milieu. Et puis, des grandes ailes au nord et au midi étendront leurs grands bras face à l'immensité des jardins de Versailles.
Donc, Levaux, c'était l'enveloppe du cœur qu'il a fait.
Oui, tout à fait, absolument.
Et on lui doit donc d'avoir gardé un Versailles historique avec Louis XIII,
oui.
Mais de l'avoir aménagé un peu comme une immense villa paladienne.
Oui. Ça veut dire des ateliers de dessinateurs autour de lui considérables, des dessins qui nous ont été conservés. Bon, ça veut dire aussi de l'argent pour fonctionner. Et nous voyons apparaître quelquefois, au détour d'un dossier, que ma foi, il n'était peut-être pas quelquefois très scrupuleux pour les deniers qu'il utilisait.
Oui, parce que nous avons parlé de ce grand architecte de génie, mais c'était aussi un spéculateur,
un investisseur
de génie aussi, à sa manière.
Génie. Oui, incroyable.
Et il a eu des problèmes un peu.
Oui, il a eu des problèmes. Bon, d'abord, il était très riche. Alors, vous savez qu'il a été propriétaire d'une manufacture de fer blanc.
Il était maître de forge.
Bon, il avait des sortes d'usines dans le Nivernais. Donc, il recevait des subventions. Il ne payait pas toujours rubis sur l'ongle ses ouvriers. Et puis, Colbert lui en voulait, parce que lorsque Colbert a acheté son hôtel de Beautrut-Serran pour l'aménager, un placement de l'Institut national d'histoire de l'art, l'architecte nouveau qu'il a choisi pour modifier a trouvé qu'il y avait des ennuis au point de vue de soubassement, de la solidité des soubassements. Et Colbert lui en a voulu. Ce qui fait qu'au moment de la construction du Collège Mazarin, Colbert a fait sentir que, ma foi, il fallait faire attention et que Levaux, on devait l'encadrer pour...
Colbert était très rancunier.
Très rancunier.
Fouquet.
Oui.
Donc, il a eu des difficultés et malgré tout, il est mort finalement en 1670, on l'a dit tout à l'heure.
Oui.
Mais bon, il n'en a pas été trop meurtri d'avoir ces difficultés parce qu'il avait l'état d'esprit à s'en sortir.
Tout à fait. Non, et puis... Il avait le soutien du roi. On a beaucoup réfléchi au pouvoir du roi et aux relations du roi avec ses artistes. Bon, nous le voyons encore dans nos études que nous menons actuellement sur le nôtre. Il y a une espèce de... Pour le nôtre, c'est une
intimité.
Oui, c'est ça. Une sorte de fraternité qui s'établit par-delà les surintendants des bâtiments, les conseillers, les ministres, etc. Voilà.
Oui.
Le roi, face à le nôtre, c'était véritablement, alors, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, majesté, je crois plutôt que ceci.
Voilà.
Ah bon, alors d'accord.
Mais oui, c'était très étonnant aussi, parce que même pour la Quintigny, c'était ça. Ils venaient le voir pour lui dire, alors, vos poires, où est-ce que vous en êtes?
Mais absolument. Et donc, il faut détacher Louis XIV d'une vision trop absolutiste que nous avons de son pouvoir à lui. Il était très absolutiste, bien sûr. Il était absolu vis-à-vis des pouvoirs constitués et des gens de la cour qui l'approchaient de près, et notamment les ministres, le chancelier, etc. Mais pour les artistes créateurs, il voulait faire partie du cercle en donnant ses idées.
Et on pense bien que Mazarin a dû contribuer à cette formation artistique.
Vous avez tout à fait raison, Mazarin. L'influence de Mazarin, le préceptorat, on peut dire, de Mazarin, a porté ses fruits magnifiquement. Mais c'était aussi, au fond, une influence italienne. C'est la société italienne avec les relations du prince avec les artistes.
En ce qui concerne Levaux, et nous en terminerons par là, quelle est sa postérité? Quels sont les... Et je crois qu'en Suède, il y a eu des constructions, en Angleterre, en Allemagne, des constructions qui datent des plans de Levaux, car il a fait date.
Oui, il a fait date, oui, voilà. L'organisation des espaces, comme nous avons dit, et puis la conception même des façades avec... l'ordonnancement de ces grands pilastres, la pierre de taille, mais aussi, et je tiens à le dire et à le redire, les libertés qu'il prend quelquefois avec les règles d'architecture.
Oui, c'est un vrai architecte
qui sait jouer avec les contraintes. Qui ne se plie pas Voilà, et pour la façade du Collège Mazarin, jamais un architecte soucieux de bien appliquer les règles des traités de Vitruve n'aurait établi sur les deux côtés des ailes arrondies qui réunissent les pavillons et la chapelle, n'aurait osé, au-dessus d'un soubassement avec des pilastres, établir un petit étage comme ça, qui n'apparaît pas sur les gravures normatives anciennes. Voilà. Et puis l'idée aussi, bon, ça c'est un détail, mais l'idée que dans l'entablement du pavillon occidental, on puisse, dans l'entablement même, percer des petites fenêtres pour éclairer les étages qui sont derrière, quelque chose d'absolument scandaleux pour des théoriciens. Donc il y a une originalité, une liberté profonde.
Une modernité.
Qui est une modernité.
Au revoir, monsieur. Merci. Enfin, j'espère que l'année prochaine, nous nous retrouverons devant ce micro pour évoquer le nôtre.
Mais ce sera bien volontiers. Mais je tenais aussi à vous dire, avant de vous quitter, que on manquait jusqu'ici du grand ouvrage fondamental sur Le Vau. L'ouvrage sur Le Vau qui a fait l'objet de la thèse de doctorat d'un historien d'art bien connu, va enfin pouvoir sortir en deux tomes très importants. Cette thèse est l'œuvre d'Alexandre Cojano. Et je suis enchanté que cet ouvrage vienne enfin combler le vide dans nos bibliothèques, puisque nous avons maintenant des livres sur François Mansart, des livres sur Ardoin Mansart, n'est-ce pas, pour ne parler que du XVIIe siècle. Mais voilà, il y avait un trou dans la bibliothèque, il n'y avait pas de Le Vau. Maintenant, il y aura un Le Vau dans deux ou trois mois.
Merci beaucoup. À plus tard, monsieur.